Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un bon week-end d'Halloween. Vos dents sont-elles propres, hein? Les caries, bien sûr. Mais c'est surtout le plaisir qu'on met de l'avant. C'est Marianne Paquette au micro pour ces 30 prochaines minutes. L'émission, c'est bon pour la santé. Et, parents, justement, mais je ne vous parle pas d'Halloween, quoique des fois, peut-être, la trop grande consommation de sucre a pu amener chez votre petit une crise de colère, hein, ou des comportements un petit peu plus agités. Vous y avez peut-être goûté. Et c'est normal, hein, même si ça vous exaspère un tout petit peu. La colère, là, ça fait partie du développement normal de votre enfant. Et chaque famille, chaque parent a sa façon de réguler des comportements un petit peu moins adéquats chez son enfant. Ça peut être le coin, hein, on voit ça souvent, le retrait, la punition. Dominique Bernèche, elle, c'est une enseignante, une blogueuse également. Elle a mis sur pied une trousse afin d'aider votre enfant à retrouver son calme. Et j'imagine qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est maman également de 4 enfants. Elle sera là en deuxième partie d'émission pour nous en parler davantage. Et puis, vous dire qu'en Amérique du Nord, la proportion d'enfants myopes a doublé lors des 20 dernières années. Ça a passé de 20 % à 40 % et en plus, ce trouble de vision se développerait plus tôt. On pourrait penser que la myopie, c'est un trouble banal. Mais l'Organisation mondiale de la santé considère la situation comme une épidémie de myopie et encourage les pays à se doter de stratégies afin de contrer ce trouble-là. Quelles sont les causes et comment réfréner cette épidémie? J'en parle plus profondément avec Dr. Langis Michaud, lui professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et également président de l'Ordre des optométristes du Québec. Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Évidemment, on va revenir aux causes parce que ça me semble être la base pour comprendre le phénomène, cette épidémie de myopie-là. Mais tout d'abord, je veux vous revenir sur le fait que le trouble de vision, qu'est la myopie, se développerait plus rapidement. En quoi c'est inquiétant, bien sûr, chez l'enfant, là?
Bon, évidemment, la myopie, c'est le fait qu'on ne voit pas de loin. Et on voyait cette anomalie de la vision se développer vers 12, 13, 14 ans, donc à la période de puberté, mm-hmm. de façon générale, de tout temps, là, ou à peu près. Mais dans les 20 dernières années, effectivement, comme vous avez mentionné, on voit des enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans, arriver avec des bonnes myopies déjà bien installées. Donc, on parle de 2 dioptries, 3 dioptries, donc 2 degrés, 3 degrés de myopie. Et... Mm-hmm. Ce qui est préoccupant dans ce phénomène-là, c'est qu'on sait qu'avec la croissance, nécessairement, la myopie va évoluer. Et donc, si on part plus tôt...
On est déjà à moins 3 ou quelque chose comme ça.
Alors, on va atteindre un niveau, et c'est là que l'Organisation mondiale de la santé est préoccupée, c'est qu'on atteint des niveaux de myopie qu'on appelle pathologiques. Donc, on peut développer des anomalies au niveau de la vision et de la santé de l'œil de façon importante.
À partir de quel degré de myopie ça devient particulièrement inquiétant?
Autour de 6 dioptries. Donc, si on est déjà à 2 ou à 3 degrés de myopie à 8 ans, la moyenne, on va perdre un quart à un demi, si on ne fait rien, là, un quart à un demi degré de myopie par année. Et la myopie arrête à la fin de la croissance, sinon à la fin des études, parce qu'on mm-hmm. voit les gens qui poursuivent à l'université, même des doctorats, des maîtrises, tant et aussi longtemps qu'ils sont aux études, on voit la myopie continuer à évoluer. Donc, c'est certain qu'on va développer une myopie plus grande que 6. Et à ce moment-là, on a 20 % de plus de risque de développer des maladies comme le glaucome, comme des déchirures de rétine, ou d'avoir des bris à l'intérieur de la rétine qui affectent notre point de meilleure vision. Mm-hmm. Parce qu'un œil, on a tous le même œil. Quand on devient myope, l'œil s'agrandit, s'étire. Alors, c'est comme si tout le monde avait la même chemise, et que certains d'entre nous qui prenaient 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, alors évidemment, les coutures et les boutons ne résisteront pas très longtemps là-dessus. Alors, ça va faire des craquelures, ça va faire des bris, ça va faire des dommages à la structure même. C'est ce qui arrive à l'œil. Mm-hmm. Plus il est étiré, plus il va y avoir des dommages qui vont se produire. Et c'est là que la vision peut être altérée, même dans certains pays asiatiques.
98 %
de la population. Et la myopie est devenue la deuxième cause de cécité dans ces populations-là. Donc, ça veut dire que les gens sont légalement incapables de fonctionner avec une vision normale parce que leur rétine est trop altérée par leur fort degré de myopie.
Et ce n'est pas à cause d'un vieillissement dit normal. Là, ça arrive, non. ça survient plus tôt dans la vie.
Ça survient plus tôt dans la vie et notamment dans les populations asiatiques, mais même en Amérique du Nord. L'hérédité joue beaucoup, l'environnement, la façon qu'on utilise nos yeux. On est des animaux qui s'adaptent à notre environnement, mais notre environnement change trop vite pour notre capacité d'adaptation. Alors, effectivement, on a plusieurs facteurs qui jouent contre nous là-dedans.
Oui, vous en venez aux causes, donc, Dr Michaud, à savoir que peut-être on n'est pas fait encore l'humain pour utiliser autant de technologies à longueur de journée.
Tout à fait. La technologie en soi est une chose. Évidemment, il n'y a pas de rayon nocif qui émane des tablettes ou des téléphones intelligents ou quoi que ce soit. C'est plus l'utilisation qu'on en fait. On se lève le matin, on consulte notre téléphone. Je lisais que les jeunes adultes, 40 % dorment avec leur téléphone, oui. ce qui est un peu aberrant. Donc, on première chose qu'on consulte, après ça, on se met sur la tablette pour lire nos nouvelles du matin. On arrive au bureau, on passe 8 heures par jour devant l'ordinateur. On revient à la maison le soir, on reconsulte téléphone et tablette. Et c'est incessant de cette façon-là. Donc, on utilise beaucoup nos yeux pour voir de près. Et c'est pas toujours la même vision que sur un papier ou un papier journal ou quoi que ce soit. C'est un peu, comme je vous dirais, on demande à notre système visuel, quand on est dans cet état-là, de faire une course de 1000 mètres, mais en s'arrêtant à toutes les 200 mètres ou à toutes les 20 mètres et en changeant de vitesse. Un petit bout vite, un petit bout lent, un petit bout moyen. Donc, on va arriver fatigué au bout de notre 1000 mètres. Alors que la vision normale et naturelle de l'être humain, c'est de faire le 1000 mètres à peu près toujours de la même façon et donc sans fatigue. Quand on est à l'extérieur, par exemple, notre œil ne focalise pas à toutes sortes de distances. Quand on est sur une tablette, on focalise sur la tablette, on focalise quelque chose d'un peu plus près, on focalise la télé, on focalise quelqu'un qui rentre dans la pièce.
Donc, c'est ça qui fatigue notre vue, c'est de s'ajuster sans cesse.
C'est les multiples ajustements sans cesse qui se font. Et ça, c'est un facteur, évidemment. Et là, la génétique joue. Il y a certains qui sont plus tolérants à cette gymnastique-là que d'autres. Il y a des expériences intéressantes qui ont été faites en Asie, notamment, où on a placé deux cohortes d'enfants similairement myopes, là, exactement la même tendance à être myope, même famille, ou à peu près même récit, dans la même école, dans le même village. Et on a dit, classe régulière pour tout le monde, ce qui veut dire de 7h le matin à 10h le soir, avec les tuteurs et tout ça. Et l'autre classe à côté, on va les faire jouer dehors 1 heure. Et la réponse au bout d'un an, c'est que ceux qui avaient joué dehors pendant 1 heure avaient 30 % moins de myopie, de progression de myopie que les autres.
On a réussi à ralentir.
Donc, un des premiers facteurs, si on veut ralentir la progression de myopie, on n'est pas en Asie, on est en Amérique du Nord, mais les mêmes facteurs s'appliquent.
Réduire le temps écran.
Travailler sur l'ergonomie de notre poste de travail, c'est-à-dire les distances sur lesquelles on doit travailler pour essayer de les équilibrer le plus possible. Vraiment, pour les enfants, vraiment limiter le temps passé là-dessus. Allons jouer dehors. Allons s'amuser dehors. Les feuilles d'automne sont encore là. Il annonce très beau dans les prochaines journées. Alors, c'est le moment idéal d'aller faire ça.
Revoir un peu nos habitudes de vie, finalement, nos comportements.
Tout à fait.
Vous êtes président de l'Ordre des optométristes du Québec, Dr Langis Michaud. J'imagine que vos confrères sont bien sûr aiguillés sur le problème, mais le grand public, pas tant que ça. Comment on fait pour transmettre ce message-là?
On commence à en parler grâce à une émission comme la vôtre. Évidemment, le message se fait peu à peu. Nos professionnels sont sensibilisés de plus en plus à cette chose-là. Comme je vous dis, il y en a certains qui vont considérer que c'est tout à fait banal. On corrige ça avec une lunette ou avec un verre de contact et c'est correct. Maintenant, on sait qu'il y a des moyens de ralentir la progression, et notamment dans les cas où on voit qu'il y a une évolution plus rapide que normale. Donc, il y a des lentilles de contact spécialisées, il y a des verres spécialisés, il y a des médicaments qu'on peut donner à l'enfant. Et avec un suivi approprié, évidemment, on peut ralentir et jusqu'à 80-90 % la progression d'une myopie. Ce qui fait la différence, le but, c'est pas d'arrêter complètement, parce qu'évidemment, il y a une croissance normale de l'être humain, c'est de dire, on va maintenir l'enfant dans une zone sécuritaire pour la santé de son œil. Donc, on va essayer de rester en dedans du 6 dioptrie. On va essayer qu'il va partir de moins 2, mais qu'il n'ira pas plus loin que moins 4 ou moins 5 à la fin de sa croissance. Et c'est ça vraiment l'enjeu. C'est là-dessus qu'on travaille. Et il y a de plus en plus de produits qui sont disponibles. Il y a énormément d'investissements en recherche qui se fait là-dessus actuellement. Je connais au moins 300 universitaires à travers l'Amérique du Nord qui font des grandes recherches là-dessus. En Australie, il y a un centre dédié à ça. En Asie, la même chose. Alors, il y a beaucoup d'efforts mondiaux qui est fait pour trouver une réponse à cette épidémie-là, parce qu'évidemment, on ne veut pas que nos enfants, que notre population en général devienne avec une cécité myopique.
Et des handicaps visuels.
Exact.
Maintenant, je reviens un petit peu à ces façons de réfréner la myopie chez notre enfant. Est-ce que le port de lunettes, de lentilles peut vraiment aider? Est-ce que de corriger la myopie va aider à réfréner le trouble?
Il y a plusieurs choses qui ont été essayées. Première technique qui a été essayée, notamment en Asie, encore une fois, parce qu'évidemment, ils ont plus de myopes que n'importe où ailleurs, ça a été de sous-corriger. C'est-à-dire vous êtes myope de 2, on va vous donner 1,50 pour essayer de relaxer, entre guillemets, le système visuel, devenir un peu moins dépendant. Et ça, c'est une erreur totale parce qu'on s'aperçoit que non seulement ça ne réussit pas à freiner, mais au contraire, ça encourage la myopie à aller beaucoup plus loin que ce qu'elle aurait été. Donc, il ne faut jamais sous-corriger, premièrement. La correction en verre ordinaire, on sait maintenant que ça marche plus ou moins parce que un verre de lunettes, ça a une surface géométrique qui est droite. L'œil, il est courbé.
Mm-hmm.
Donc, si la lumière formée à travers une lunette va être comme un écran de cinéma, si vous voulez, bien droit, alors que si vous avez une salle qui est en rond, qui regarde l'écran, il y a certains endroits qui sont plus éloignés que d'autres. Donc, l'image formée par ma lunette, il y a certains endroits qui sont affoyés, je vois bien. Mais il y a certains endroits en périphérie de l'œil qui sont plus éloignés et c'est complètement hors focus. C'est ce hors focus qui serait une des raisons pourquoi l'œil cherche à grandir. Donc, il faut aller avec des verres spécialisés qui permettent de courber un peu l'image qu'on forme au fond de notre œil pour lui faire épouser la forme de l'œil et même un petit peu plus que ça pour ralentir ce stimulus, cette perte de focalisation qui stimule la croissance de l'œil. Donc, il y a des méthodes optiques donc, qu'on peut travailler. On a essayé des doubles foyers. Donc, les gens qui sont presbytes savent très bien à 45 ans, soit un foyer progressif ou dans l'ancien temps, on avait des foyers, là, la lunette coupée en deux un peu, là, qui permettait d'avoir une partie pour le proche et une partie pour le loin. Ça peut marcher à condition qu'on contrôle bien où l'œil regarde. Mais pour un enfant, c'est très difficile de contrôler là où il va regarder. Souvent, d'instinct, il va regarder dans le haut de sa lunette plutôt que dans le bas. Donc, ça marche plus ou moins. C'est pour ça que de nos jours, il est à peu près reconnu que le verre de contact spécialisé qui permet donc de faire différentes focalisations dans l'œil marche.
Mais de couvrir
la périphérie. Oui. C'est ça, le centre et la périphérie. Mm-hmm. Donc, on moule l'image à la forme de l'œil. Il y a un autre verre de contact qui est un verre rigide qu'on porte la nuit, qui est de l'orthokératologie qu'on appelle. Là, c'est la surface même de l'œil qu'on moule pour créer cet effet optique. En faisant un moulage approprié, on peut bien focaliser l'image là où elle doit être focalisée pour qu'on voit clair, mais on peut aussi orienter vers la périphérie de l'œil pour que l'image suive la courbe de l'œil.
Et à partir de 7-8 ans, je pense qu'un enfant peut porter des lentilles.
Tout à fait, de façon sécuritaire. Évidemment, ça prend toujours la supervision des parents. Là,
Et aussi l'enfant qui ne porte pas ses lunettes. Parce que, bon, c'est facile de partir à l'école rapidement ou dans les activités sportives. On ne met pas les verres correcteurs. Il faut que le parent ait un suivi adéquat par rapport à ça.
Oui, puis un côté social aussi. Il y a un côté estime de soi. Il y a un côté esthétique. Quelqu'un qui est très mignon. Pas des verres, évidemment, même si on les amincit, quand même un petit peu différents des autres. Alors, souvent, l'enfant ne veut pas les porter face à ses copains. Alors, la lentille de contact, surtout spécialisée, là, va venir aider à solutionner ce problème-là.
On pourrait penser à, justement, pour le volet esthétique, d'aller vers la chirurgie laser, mais ce n'est peut-être pas approprié pour des enfants.
Ce n'est pas approprié pour des enfants parce que la première condition, il faut donner un consentement légal à l'être adulte avoir quelqu'un qui donne le consentement pour nous, bien évidemment, mais il faut que la myopie soit stable. C'est le premier critère pour recourir à une chirurgie réfractive. Alors, tant et aussi longtemps que la myopie est en évolution, on ne peut pas penser à cette technique-là. Deuxième élément, la chirurgie réfractive ne va corriger optiquement comme une lunette, c'est-à-dire qu'elle va créer une image plane au fond d'œil qui ne correspondra pas justement à cette perte de focus en périphérie. On va donc avoir exactement le même résultat que si on corrigeait avec une lunette ordinaire ou avec un verre de contact ordinaire. Donc, la myopie va continuer à progresser.
C'est ça.
C'est pas une réponse. Une fois que la myopie est stable, par contre, pour des myopies moyennes, jusqu'à 6-7 dioptries, ça peut être une alternative intéressante. Mais il faut que la myopie soit stable.
Est-ce que la myopie se stabilise automatiquement à l'âge adulte lorsque la croissance est terminée?
En théorie, oui. C'est ce qu'on voyait beaucoup par le passé. Remarquez qu'on voit des adultes devenir myopes. Par exemple, quelqu'un qui était manœuvre dans une usine, qui est promu contremaître et qui va faire du travail de bureau sur ordinateur maintenant pendant 8 heures par jour, bien, on voit des gens arriver dans nos cabinets avec des myopies qui commencent.
Et
alors
ça, c'est nouveau.
C'est relativement nouveau aussi.
Et de là, ce phénomène d'épidémie de myopie qui devient une situation assez préoccupante. Là.
Mais évidemment, l'adulte qui commence une myopie à 30 ans, on s'entend que l'évolution ne m'inquiète pas pour qu'il développe une pathologie au fond d'œil. C'est plus chez les enfants que ça nous inquiète. Oui. Remarquez que ça nous en dit quand même beaucoup sur l'environnement dans lequel on se place et avec lequel on travaille avec nos yeux.
Oui. Avant de terminer, je veux parler de diagnostic précoce.
Oui.
Est-ce qu'il y a des interventions en milieu scolaire, des optométristes qui vont sur le terrain, font des examens. Ça existait, moi, quand j'étais jeune. Est-ce que l'on continue cette vague-là afin de pouvoir diagnostiquer? Parce que j'imagine que c'est un facteur là, pour réfréner la myopie.
Malheureusement, l'austérité a frappé il y a bien longtemps ce oui. volet-là au niveau des écoles et les infirmières scolaires sont débordées. Les techniques de dépistage vont identifier la myopie, bien sûr, mais n'identifient pas tous les autres problèmes visuels qui sont pourtant très fonctionnel. Les yeux, c'est 80 % de l'apprentissage. Et
oui.
L'enfant, très souvent, il y a seulement 15 % des enfants qui sont examinés avant d'entrer à l'école. Alors, au-delà des dépistages, je pense que la recommandation à la population, en tout cas, de l'ordre des optométristes qu'on recommande, c'est un premier examen à 3 ans. Si tout va bien, le deuxième examen à 5 ans, il y a toutes les années du primaire, parce que ça peut changer rapidement avec la croissance de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas juste le fait de ne pas bien voir, il y a le fait que les yeux ne sont pas bien coordonnés, il y a l'effet que les yeux peuvent fatiguer vite, les yeux forcent trop pour lire, les yeux ne suivent pas bien un texte. Alors, il y a plein de choses qu'on peut déterminer en termes de difficultés d'apprentissage et qui peuvent aider l'enfant à avoir une réussite scolaire plutôt que de le conduire au décrochage.
Réussite scolaire, intégration, estime personnelle, vraiment, la vision, c'est lié à plein de facteurs de la vie. Et après, à l'âge adulte, là, c'est vraiment tout l'investissement qu'on peut avoir dans une société.
Comme parent, on peut faire une très, très grande différence dans l'avenir de notre enfant si on lui assure d'avoir les premiers outils qui sont nécessaires à son apprentissage, c'est-à-dire des bons yeux en santé, bien coordonnés.
En terminant, Dr Michaud, je pense que l'Université de Montréal est associée à une vaste étude qui est également là, liée à plein d'autres chercheurs partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette étude-là?
Très rapidement, oui. On teste actuellement justement une nouvelle lentille cornéenne pour le contrôle de la myopie avec un fabricant mondial, évidemment. Il y a des centres partout à travers le monde, en Europe, en Angleterre, en Asie, en Australie, aux États-Unis. Il y a nous et Waterloo qui ont été recrutés au Canada. On a une douzaine de patients qu'on suit actuellement avec cette modalité-là. On a commencé il y a quelques mois et l'étude va durer 3 ans. Alors, on va voir si cette nouvelle modalité va faire ses preuves ou non.
Et ça sera adapté aux enfants?
Ça sera adapté aux enfants. Donc, on parle de lentille cornéenne qu'on jette à tous les jours. Donc, c'est la méthode la plus sécuritaire de porter un verre de contact. Une lentille qui est toujours neuve, 100 % d'oxygénation. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de trempage dans des étuis souillés. Donc, c'est vraiment la méthode la plus efficace et la plus sécuritaire de porter un verre de contact. Et on espère que ça va aussi contrôler la myopie.
Une opportunité pour vous revoir dans 3 ans.
Tout à fait.
Dr Langis Michaud, vous êtes professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, oui, et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Merci beaucoup de votre passage.
Merci à vous.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Dominique Bernèche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice, blogueuse également de Les Belles Combines, également enseignante au primaire. Et là, pour nous parler d'une trousse de retour au calme pour aider, enfin, notre enfant à retrouver son calme. Et ce que je trouve intéressant dans cette trousse-là, Dominique, c'est qu'au-delà de la punition, vous proposez aux parents la réparation, c'est-à-dire une conséquence naturelle à un comportement qui serait plus ou moins apprécié ou adéquat. Pourquoi vous mettez cette méthode-là de l'avant?
La trousse de retour au calme, en fait, ce qu'il faut comprendre là, au départ, c'est une espèce de trousse qui permet de gérer les crises avec les enfants, les débordements d'émotions. En fait, ce qui est permis à cette trousse-là, c'est d'avoir un moment d'arrêt dans des situations de crise où l'enfant peut s'asseoir calmement et qu'il a des outils en main dans cette trousse-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'amène à agir ainsi, comment je pourrais faire la fois suivante, la fois d'après pour pas que ça se reproduise. Donc, par la suite, il y a comme une petite genre de geste de réparation pour éviter que ça ne finisse qu'avec une petite excuse très brève. Donc, il faut réparer un petit peu le geste aussi qui était posé. Il faut être conscient que le mot d'excuse, souvent, est peut-être pas adéquat. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller poser une action pour réparer un peu ce qui s'est passé.
Donc, ça peut être de dire, si j'ai dit un gros mot à maman, je peux lui faire un dessin ou je peux l'aider à cuisiner. Ça peut être ce genre de geste-là.
Exactement. Il y a une série de petits gestes de réparation que l'enfant peut piger s'il a été grossier envers sa mère ou s'il a tapé son frère ou quelque chose comme ça. Donc, oui, il pourrait lui faire un compliment ou lui rendre un service, faire une tâche ménagère à sa place. Bref, toutes sortes de petits gestes comme ça qui lui permet de réparer.
C'est assez constructif. Ce qui est intéressant également avec ce kit-là de retour au calme, Dominique, c'est cette façon d'aider l'enfant à exprimer sa colère. Bon, il y a un miroir dans la trousse, à quoi ça peut servir?
Bien, en fait, le miroir, c'est un peu pour se regarder parce que des fois, quand on est en colère, l'enfant, c'est le fun qu'il puisse voir un peu son visage puis voir, bon, de quoi j'ai l'air, là? Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis calme? Puis, à côté, on a aussi une espèce de petit livret avec les émotions illustrées, que ce soit je suis vexée, je suis en colère, je suis triste. Donc, pour faire un peu la comparaison entre son visage et les visages qu'on voit sur le livret d'émotions.
Vous conseillez combien de temps au retrait ou à la punition? Est-ce que ça tient toujours, ça, selon l'âge de l'enfant?
Je trouve que c'est une bonne méthode, oui, d'y aller selon l'âge de l'enfant. C'est-à-dire, comme par exemple, chez moi, ce que j'ai mis, c'est un sablier. Donc, il y a un sablier dans la trousse de retour au calme. Ce qui fait que, bon, si l'enfant, c'est un sablier d'une minute, si l'enfant a 2 ans, ben je vais lui demander de prendre le temps de 2 sabliers pour se calmer.
Ah oui.
3 ans, ça pourrait être 3 sabliers, ou à moins qu'on ait un sablier de 3 minutes, là. Mais oui, je trouve que c'est une bonne méthode.
Il y a également un casse-tête, je pense, dans cette trousse-là. Est-ce que ça sert à aider l'enfant à revenir au calme?
Bien, en fait, l'idée derrière la trousse de retour au calme, c'est beaucoup de donner des moyens aux enfants de retrouver leur calme. Il y en a, ça peut être de toutes sortes de façons. Pour mes enfants, ça fonctionne bien. J'ai mis un petit casse-tête ou un livre de lecture. Il y a aussi des feuilles, des bons de colère à chiffonner.
Oui.
Ça fait qu'on a une espèce de feuille. C'est écrit bon de colère à chiffonner et à jeter dans un coin en cas de crise. Alors, l'enfant peut aussi chiffonner le bon de colère, le lancer. Il y a aussi une balle anti-stress. Donc, qui peut écraser puis passer un peu
lui faire passer un mauvais quart d'heure là, à la balle. C'est
voilà,
mieux que le petit
exactement.
Frère.
Exactement. Dans le but de donner des moyens de revenir au calme. Parce que l'idée, c'est qu'un jour, il soit capable de le faire tout seul, qu'il n'ait plus besoin de cette trousse-là. Là.
Oui. Dominique, je le disais en introduction, vous êtes enseignante au primaire, mais vous êtes également maman de 4 enfants. Donc, on aurait tendance à vous faire confiance d'entrée de jeu. Bon, ça a l'air de fonctionner avec vos enfants. Est-ce que ça peut fonctionner pour tous les types d'enfants?
À mon avis, oui. C'est une méthode, l'arrêt d'agir, pour avoir travaillé, comme vous le dites, je suis enseignante, donc pour avoir travaillé dans plusieurs milieux scolaires. C'est vraiment une méthode qui est assez universelle, là. Je vous dirais dans les classes, peut-être dans les classes aussi avec des élèves aux prises avec des problèmes TDAH ou des trucs comme ça. Oui, je pense que c'est une méthode assez de base, ce qui fait aussi qu'elle s'adapte très bien à des très jeunes enfants.
Ah oui, OK.
Oui, à des enfants en bas âge, là, aussitôt que 2 ans, 2 ans et demi, là, on on peut déjà introduire un peu cette méthode-là.
Est-ce que vous avez reçu, Dominique, des commentaires d'enfants qui vivraient avec bon, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme ou justement un TDAH, des commentaires à savoir si ça a bien fonctionné pour eux?
Malheureusement, j'ai pas eu la chance de recevoir de commentaires. C'est assez récent, en fait, la trousse de retour au calme. Je pense que ça fait peut-être un mois qu'on l'a vraiment mis de l'avant dans les médias sociaux puis un peu partout. On a eu une très bonne réponse, je vous dirais, par contre, beaucoup d'éducateurs spécialisés qui ont partagé sur Facebook et puis qui ont aussi acheté la trousse en ligne.
Oui. Et cette idée de la trousse-là, de cette trousse-là, pardon, elle vient de la gestion de la colère qui était plus ardue, soit avec les élèves à l'école ou avec les enfants. Vous avez constaté que c'était peut-être un écueil dans le développement de l'enfant?
Bien, en fait, c'est que moi, je favorise beaucoup, beaucoup le renforcement positif. Donc, à la maison, j'avais déjà des trucs qui me permettaient de renforcer les bons comportements, dont le magasin général, qui est un autre outil qu'on peut retrouver sur les belles combines. Mais ce qui me manquait, c'était ça. C'était quelque chose, parce qu'on peut pas toujours renforcer les bons comportements. C'est important, de temps en temps, de pouvoir réprimer les moins bons.
Ouais.
Et puis, ce que je voulais, c'était de capable de le faire de façon positive. Pas seulement « va dans ta chambre, va réfléchir », mais « attends, assis-toi, prends un moment pour penser à ce qui est arrivé, puis après, on va en parler. On va voir comment ça, on aurait pu faire les choses autrement. »
Oui. D'ailleurs, on peut aller sur votre site lesbellescombines.com. On peut se procurer la trousse là. J'imagine également que le magasin général, Dominique.
Oui.
Il y a également d'autres outils. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. On a encore du temps. Le planificateur familial, entre autres choses, c'est un autre de vos outils chez Les Belles Combines.
Oui, exactement. Le planificateur familial, c'est un espèce de planificateur qu'on met sur le frigo, avec vraiment un espace pour mettre pour la planification des repas, pour les sorties de papa, de maman, des enfants. Puis il y a aussi un endroit assez chouette pour les tâches familiales, les tâches ménagères de chacun. Puis pour ce qui est des enfants, on a appelé ça les petites missions. Donc on est allé dans un point de vue plus ludique, de façon à ce que ce soit agréable pour les enfants, que ce soit un peu comme un jeu aussi.
Et il y a également les règles familiales. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Bon, quand on est une famille, de se donner des règles familiales. Ça pourrait être quoi, par exemple, des règles familiales, Dominique?
Bien, en fait, les règles familiales, on est allé avec des choses assez de base, là. C'est-à-dire que, bon, on respecte les gens autour, on ne frappe pas, on ne crie pas. Bref, c'est vraiment des règles assez de base. Donc, par exemple, tout le monde a le droit de donner son opinion à la maison, mais la décision finale revient aux parents.
Ouais.
Bref, des trucs, il y en a 5, je crois. Puis, c'est des choses assez de base.
Oui, assez concret.
Ouais.
Et j'imagine que ça aide à être plus cohérent et à pouvoir expliquer davantage aux enfants pourquoi leur comportement n'était pas approprié dans situation.
Oui. Non seulement ça aide à être plus cohérent, mais tous ces outils-là aident beaucoup à être constant aussi.
Ouais.
De faire en sorte qu'au sein du couple, on s'est donné une méthode et on y tient et on va l'utiliser. Donc,
ensemble.
Ça sécurise beaucoup les enfants de savoir que ça se passe toujours de la même façon.
Dominique Bernèche, je rappelle, vous êtes cofondatrice de Les Belles Combines, également enseignante et maman. Salutations aux enfants. Merci beaucoup. On mettra votre site sur le nôtre.
Parfait, merci.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche. Demain, Brigitte Durruti, elle sera là, elle sera en Belgique. On va la joindre là. Comment se déstresser au travail? Meilleure gestion du stress. Toujours bon pour la santé. À demain. Bye-bye.